t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André du mouvement Yokata Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de nous faire confiance sur la fréquence de la paix Radio Okapi. Plus d'une année après leur installation, les nouvelles provinces fonctionnent tant mieux que mal selon certains observateurs. Dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur a été déchu de ses fonctions par l'Assemblée provinciale, lui reprochant notamment la mauvaise gestion. La province de l'Équateur a enregistré plusieurs démissions des ministres provinciaux. Dans la province du Congo central, c'est le président de l'Assemblée provinciale qui a dénoncé l'absentéisme de certains députés provinciaux. Par ailleurs, certaines autres provinces connaissent un fonctionnement et une collaboration assez stable entre les exécutifs et les assemblées provinciales. Comment appréciez-vous le fonctionnement administratif de votre province? André Mongou est à la mise en onde de ce magazine que Nico Kalambay vous réalise et Piero Elameji vous le présente sous la supervision de Martin Seboujangwe. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs pour les débats avec l'ensemble des internautes. Mais en direct, c'est au 081-890-4969 et 081-890-6380. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux Auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Paroles aux Auditeurs, Piero et la Mégie.
De 11 à 26 provinces, beaucoup d'internautes estiment que les nouvelles provinces fonctionnent tant mieux que mal, surtout celles ici des anciennes provinces qui avaient déjà une certaine stabilité économique, mais la plupart estiment que le fonctionnement des nouvelles provinces est buté aujourd'hui, que ce soit sur le plan administratif, au manque de moyens, mais les provinces se débrouillent tant mieux que mal. Vous êtes nombreux sur le standard de Radio Capi, des paroles aux auditeurs, pour commenter ce sujet. Chimankinda Moulopoui réagit en disant ceci: quand on sait que les gouverneurs des nouvelles provinces ont été installés pour les comptes plus de la majorité présidentielle que des circonscriptions, quand on sait que nombreux cherchent tout simplement leurs intérêts plutôt que les intérêts de la population, ce qui veut faire, ce qui montre qu'il y aura beaucoup d'émotions, des censures et des défiances province après province. Jérémy Bétoffé dit: depuis que tout commence au niveau de la tête, si le problème de gestion se pose au niveau de l'ensemble du pays, comment pensez-vous aujourd'hui que les entités comme les nouvelles provinces puissent être bien gérées? Nous avons en ligne M. Hippolyte Mutombo Mbouboué. Vous êtes porte-parole du gouvernement provincial du Kasaï Oriental, le Kasaï Oriental qui est dirigé quand même par un gouverneur qui est l'un des doyers qui a connu les temps des 11 provinces, y compris les découpages. D'une manière globale, M. Hippolyte Mutombo, comment on peut aujourd'hui analyser l'expérience du découpage provincial?
Merci, M. Pierrot. J'aimerais d'abord vous remercier du fait qu'on nous associe à ce débat aujourd'hui et vous dire que globalement, c'est une expérience qui est bonne dans la mesure où ça rapproche les dirigeants de gouverner. Et ça permet en fait à la population aussi de pouvoir décider à la base de son devenir, de prendre les initiatives sur les projets de développement. Et c'était d'ailleurs l'un des objectifs qui avait été poursuivi par les découpages. Et en même temps aussi, ça crée des niveaux de décision qui permettent à la population d'initier ses propres projets pour dans le cadre du budget participatif, et puis de l'exécuter et de cibler les priorités en fonction de ces problèmes réels. Parce qu'il faudra dire que les projets de développement qui sont conçus d'ailleurs, et ils sont souvent exogènes, mais ici c'est une approche qui est de plus en plus endogène, où la population elle-même programme ses priorités en fonction des moyens qui existent, surtout que souvent les moyens sont limités. Mais dans le même temps, nous devons aussi signaler que ce découpage, comme aussi il est venu un peu brusquement, il a créer aussi quelques dysfonctionnements, notamment par rapport à l'administration elle-même qui n'a pas assez d'infrastructures conséquentes pour les provinces. Il y a aujourd'hui, il y a des efforts qui sont déployés, toutes les provinces se sont mises à la matière et on a vu que chacune des provinces a au moins un gouvernorat qui répond plus ou moins aux normes. Mais sinon, les infrastructures, c'est un casse-tête qui existe encore et qui doit, donc sur lesquels les efforts doivent être poursuivis pour qu'elles répondent aux attentes, surtout à la hauteur des différentes provinces, surtout pour les nouvelles provinces dont les chefs-lieux ne coïncident pas avec les chefs-lieux des anciennes provinces. Mais également, il y a cette problématique des moyens qui est vraiment un hic, parce que vous savez qu'il y a cette question des mobilisations de recettes locales qui est un problème par rapport au pouvoir d'achat de la population. On a une population qui n'arrive pas à mobiliser ce que la loi dit qu'il faut mobiliser. Et d'autre part, et d'ailleurs, c'est le grand hic, c'est le grand volet, c'est la rétrocession qui doit venir du pouvoir central, parce que le budget de la plupart des provinces c'est basé à 80% sur la rétrocession. Les budgets d'investissement essentiellement qui doivent venir du niveau national, un budget qui est sur le budget provincial mais qui n'est presque pas exécuté par le pouvoir central. Et ça, ça met les provinces dans une situation embarrassante où le budget provincial qui est voté avec un programme lié n'est toujours pas exécuté. Il est exécuté, si pas à la même hauteur que la rétrocession centrale qui arrive presque à 10-20%, ce qui fait que les budgets sont exécutés dans l'ordre de 20%, et des fois, il y a les frais de fonctionnement que certaines provinces essaient d'utiliser à faute du budget d'investissement national. Ils essaient de réutiliser ça pour un minimum de visibilité par rapport aux exigences de base. Outre cela, je voudrais aussi dire qu'il y a la décentralisation elle-même. Il y a des secteurs qui sont exclusifs aux provinces, que l'administration centrale a tendance à garder, ne veut pas lâcher, la gestion n'est pas lâchée comme le prévoit la Constitution, notamment l'agriculture, la santé, l'éducation, le développement rural, qui devaient être des secteurs qui ne sont pas concurrents, ils sont exclusifs, et même sur le plan de différents budgets, on sent que c'est Kinshasa qui effectue les dépenses à la place des provinces, et dans un schéma où ça ne respecte pas toujours les priorités de la province.
Merci, voilà, donc, vous avez évoqué... des grandes questions, vous avez décrit le tableau d'une manière assez globale, comme je le disais, c'est une série d'émissions que nous avons aujourd'hui, c'est le volet administratif. La semaine prochaine, on abordera la question de la justice, de l'administration de la justice dans les nouvelles provinces, et on va terminer ici avec la place de l'appui du gouvernement central dans le développement de ces provinces. On va revenir à vous.
Il y a une autre question importante que vous avez déjà explorée dans l'introduction de l'émission. C'est les rapports aussi entre les institutions en province. C'est les rapports entre l'exécutif et les législatifs en province. Il y a des provinces comme la nôtre où il ne se pose pas vraiment ce problème. Je crois qu'il y va aussi de l'expérience de la décentralisation, où bien sûr dans certaines provinces, l'exécutif et les législatifs sont livrés à une lutte, un combat l'un ou l'une contre l'autre. Et ça n'a pas porté de fruits parce que ça a créé l'instabilisation des institutions provinciales. Soit que c'est le gouvernement qui tout le temps a été démis ou même le gouverneur lui-même. Donc ça c'est aussi un autre problème qu'il faut évoquer qui est une pesanteur par rapport à la mise en œuvre de la décentralisation telle que prévue par la Constitution.
Voilà, on vous garde. On va écouter Honorable Paulin Oudjane, député provincial à Isiro, dans la province du Haut-Uele. Monsieur Oudjane, vous êtes avec nous. Bonjour. Honorable Paulin Oudjane, bonjour. Voilà, la réalisation va tenter de recontacter Paulin Oudjane. On retourne ici à Kinshasa. Maître Likonza, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Alors, vous avez suivi qu'il y a eu des petits soucis, par exemple, que ce soit la motion de défiance contre le gouverneur du Haut-Katanga, que ce soit les démissions dans la province de la nouvelle province, disons à l'Équateur, que ce soit la démission dans la province de la Tchopo. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut encore beaucoup d'efforts pour permettre à ce que les animateurs des institutions provinciales soient assez mûris, encadrés dans leur rôle dans la gestion de ces nouvelles provinces?
Oui, bien sûr, parce que moi j'ai comme l'impression que il se pose vraiment un problème de maîtrise de gestion d'une province au regard même de la législation sur la décentralisation. Mmh. À ce que vous avez dit pour répondre, je vais prendre l'exemple de la province de la Tuapa, où le gouverneur a été déchu par les députés provinciaux pour des raisons qu'ils avaient évoquées, mais arrivé à la Cour constitutionnelle, il a été réhabilité, mais pour qu'il retourne à la Tuapa, la population d'Ignette, il ne va pas retourner. Donc là, il y aurait risque d'enregistrer une tension, un incident au niveau de Bouéndé. Vous voyez que cette situation entre les institutions provinciales met au centre la population. Puisque lorsque le gouverneur se présente à l'Assemblée provinciale pour présenter ses ministres provinciaux, il amène aussi son programme d'action. Et les députés provinciaux investissent les ministres provinciaux en acceptant les programmes du gouvernement. Mais après, il faudrait qu'il y ait un suivi. Les députés provinciaux doivent suivre l'exécution du programme. Mais lorsqu'ils doivent suivre ces programmes-là, ça pose maintenant un problème au niveau de l'exécutif. Les députés provinciaux deviennent les ennemis du gouverneur et des ministres provinciaux. Entre-temps, au niveau de l'exécutif, on cherche des voies et moyens pour attirer les députés, gagner la sympathie des députés. Et la population maintenant commence à observer ce qu'on appelle corruption. Au lieu que les fonds de la province puissent servir au développement de la province en vue du bien-être de la population, ce sont plutôt les députés provinciaux qui s'enrichissent pour dire que bon, nous n'allons pas vous contrôler. Mais en contrepartie, voici ce que vous allez nous donner chaque mois. Et l'argent de la province est comme ça partagé entre les animateurs de l'exécutif et de l'Assemblée provinciale. Mais l'invité, je l'ai suivi, vous avez dit qu'il est le porte-parole du gouvernement provincial du Kasaï. Mais les exécutifs provinciaux ont tendance à ne pas faire allusion aux recettes provinciales. Il a parlé là, il a parlé de la rétrocession.
Oui.
Mais il n'a pas évoqué la question des recettes provinciales. C'est une habitude pour ceux qui sont au niveau de l'exécutif. Alors que les recettes provinciales ils sont aussi d'une importance capitale, puisque là, c'est beaucoup d'argent qu'on réalise chaque mois. Même en termes de nouvelles provinces, nous suivons de très près l'actualité. Vous avez cité la province de l'Équateur. Il y a un débat là-bas au niveau de la régie financière provinciale où le directeur général a été suspendu pour avoir dit qu'il mobiliserait chaque mois plus de 222 millions de dollars et que maintenant les députés provinciaux voudraient se saisir de la question pour inviter le gouverneur. Alors, on l'a suspendu pour qu'il ne soit pas en mesure de venir répondre et donner les éléments qu'il faut aux députés provinciaux. Et cette discussion au niveau des Mbandaka aujourd'hui crée des dissidents, des courants qui soutiennent les gouverneurs et d'autres qui sont derrière les députés. En même temps, rien ne s'est fait sur le terrain et la population souffre.
Et là, on observe carrément une paralysie. Merci beaucoup, Maître Likonza. C'est d'une manière très succincte que vous avez présenté les dossiers. La responsabilité est partagée, mais vous estimez que tout ça, il y a un problème de maîtrise des gestions, mais le problème aussi de maîtrise des textes juridiques de la décentralisation. Je crois bien, Pauline Odjane est avec nous. Merci, vous êtes revenu sur les antennes. On vous a perdu d'un moment à l'autre. Vous êtes député provincial dans la province de la Tchopo. De Haut-Uele plutôt, Haut-Uele à Isiro. Tout à l'heure, Maître Likonza accusait aussi les députés provinciaux, qui la plupart dans d'autres provinces, ils se font amis des exécutifs provinciaux. Et là, on a des problèmes très très sérieux. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'expérience du découpage de ces processus de décentralisation est quand même une réussite malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans certaines provinces?
Merci beaucoup pour m'avoir associé à cette émission. Je tiens d'abord à saluer l'invité et tous les auditeurs de la radio Okapi. D'emblée, je peux vous dire que la décentralisation chez nous et le découpage territorial n'a pas suivi les normes du fait qu'il n'y a pas eu une préparation adéquate afin que nous puissions entrer dans les découpages. Les différents animateurs, d'abord les nouvelles provinces, parce qu'il faut commencer par là, ils n'ont pas été choisis sur base des critères objectifs, mais c'était plutôt sur base des critères de militantisme et de clientélisme. Et tout ça, ça crée énormément de problèmes sur le fonctionnement des nouvelles provinces. Et la formation même des gouvernements, des différents gouvernements provinciaux, on n'a pas tenu compte de la compétence des animateurs des ministères. C'est plutôt des critères subjectifs et également les critères des partis politiques et ainsi de suite, sans qu'on puisse choisir des hommes capables de relever les défis dans les nouvelles provinces. Et également la composition des différents cabinets, le cabinet de gouverneur, le cabinet ministériel, pose problème. Parce que plus de 90%, ce sont des frères et sœurs qui n'ont jamais travaillé dans des cabinets politiques. Et vous devez savoir que quand on nomme quelqu'un comme conseiller d'un ministre, d'un gouverneur, il faut que le conseiller soit un homme à même de dire de vérité au chef et de connaître la matière pour laquelle on l'a mis conseiller, de maîtriser ce domaine plus que l'autorité. Parce qu'on ne peut pas conseiller quelqu'un sur un sujet qu'on ne maîtrise pas très bien. Mais nous constatons que ce sont des jeunes gens qui n'ont jamais travaillé dans des cabinets politiques, qui ne maîtrisent rien de la politique, qui sont mis comme des conseillers, et ils vont prodiguer quel genre de conseils pour l'autorité afin que la gestion de la province puisse aller de l'avant. Moi, je doute fort de sur ce point-là. Et sur le plan même de la gestion de la chose publique, ça pose un sérieux problème. Il y a qui vient de passer avant moi qui a souligné cet aspect. Donc, les autorités provinciales ne veulent pas du contrôle. Le contrôle, si vous menez les actions liées au contrôle, vous êtes pratiquement son ennemi. Donc, il faut chercher comment vivre à néant parce que vous voulez contrôler la gestion. C'est la moindre insuffisance que la gestion des provinces chez nous ne respecte pas les critères de la bonne gouvernance, de la transparence. Ça ne respecte pas. Le budget voté, personne ne respecte le budget. Donc, on peut se réveiller le matin, une autorité provinciale décide, non, nous allons faire ceci en dehors même du budget. Là, nous ne pouvons pas nous attendre au développement des entités, des nouvelles entités qui sont créées dans notre pays.
Mais alors, honorable, en vous écoutant dans votre intervention, vous chargez plus les exécutifs provinciaux. Mais quelle est la faiblesse aujourd'hui des assemblées provinciales? J'ai donné l'exemple en introduction où le président de l'Assemblée provinciale du Congo central s'est plaigné de l'absentéisme de certains députés provinciaux qui ne se présentent presque pas dans les plénières. Et il y a aussi Maître Likonza qui a évoqué tout à l'heure certains députés provinciaux aussi qui acceptent une certaine cohabitation avec le gouverneur. Et dans ces cas, on ne s'intéresse pas aux questions de fond. Y a-t-il pas aujourd'hui des faiblesses du côté des assemblées provinciales dans ces difficultés de fonctionnement des nouvelles provinces?
Effectivement, il y a de sérieux problèmes. Mais ce qui concerne l'absentéisme, au QLE, cela ne se manifeste pas, les députés sont là, mais nous pouvons plutôt décrier certains comportements, certaines alliances qui sont tissées entre certains députés et l'exécutif provincial. Là, nous ne sommes pas du tout contre, c'est ce qui se passe. Mais c'est là, cette activité, cette action paralyse effectivement le contrepoids qui devrait venir pour pousser l'autorité provinciale à faire correctement le travail qui lui est demandé, qui lui est donné par l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire en adoptant, en approuvant le programme du gouvernement. Il y a un programme, il faut suivre ce programme, il y a un budget qui est voté par l'Assemblée provinciale, il faut suivre ce budget et l'Assemblée doit suivre l'exécution du budget et en même temps l'exécution du programme. Parce que c'est sur base de ça qu'on a investi le gouvernement. Donc si l'Assemblée n'arrive pas à contrôler efficacement le gouvernement provincial, ça s'accroche plutôt à des relations obscures qu'il y a entre l'exécutif et l'organe délibérant, ça pose un sérieux problème, du développement de nouvelles provinces.
Merci beaucoup. Oui, allez-y, terminez, oui, honorable.
Oui, le nez des problèmes aussi, c'est donc au niveau des nouvelles provinces, vous savez, nous, on s'est rapproché de la population, ce sont des gens qui sont plus des mêmes entités. Il y a aussi les liens claniques, ethniques, tribales qui paralysent les activités de la province, parce que une telle personne, un tel député ne peut plus lever donc la voix, on va dire que non, voilà, il y a guerre entre telle ethnie et l'autre ethnie, tout ça, ce sont des phénomènes, des systèmes, des activités occultes qui paralysent le fonctionnement même des provinces.
Voilà. Merci beaucoup, honorable Paulin Odiane, pour ce témoignage. C'est très important. Ce qui veut dire qu'il y a un travail d'assainissement qui doit être fait au niveau de la sensibilisation pour la compréhension globale du découpage ainsi que de la décentralisation. Merci beaucoup, Franck. Merci d'être avec nous. Alors, en écoutant les diagnostics posés par les uns et les autres, il sait quand même de rappeler que c'est un processus, la décentralisation. On a commencé par un point. On doit évoluer pour arriver vraiment ainsi que les découpages, comme le disait notre invité en début d'émission, répondent au vrai problème de rapprochement de l'administration avec la population. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qui doit être fait dans ces différentes provinces, Franck? Merci, Edith, bonjour.
Oui, merci, Pierrot. Merci pour le choix de la thématique. Merci pour la parole et bonjour à tout le monde. Je crois que pour cette thématique, il y a beaucoup de choses dont il faut parler, et j'aimerais peut-être qu'on le recadre encore, parce que on parle aujourd'hui de la décentralisation des nouvelles provinces, mais il faut partir d'abord du fait de la loi. La décentralisation devait être mise en place à partir de quand, et quand est-ce qu'elle a été effective d'après l'esprit de la Constitution? Je crois que c'est à partir de ce moment qu'il faut peut-être repenser la manière d'argumenter aujourd'hui. La Constitution disait que la décentralisation serait en place 36 mois après le référendum, disons que 3 ans après. Mais c'est pas après ces 3 ans que cette décentralisation a été effective. Dans la Constitution, il était dit que durant ce temps, on devait déjà penser à doter toutes ces nouvelles provinces des infrastructures dont elles auraient besoin pour leur fonctionnement. Je me pose autant de questions si toutes ces infrastructures ont été accordées à toutes ces provinces-là. Et d'un coup, on s'est d'abord rendu compte que personne ne voulait parler de la loi de la décentralisation, parce que même pour les donner aux provinces ce dont elles avaient besoin, ça posait toujours des problèmes. Puis, on a opéré tel que nous le connaissons. Mais pour le moment, je crois que si on doit voir comment ça se passe dans des nouvelles provinces, personnellement, il y a trois questions que je me pose. Gouverner chez nous, ça signifie quoi? Gouverner toutes ces nouvelles provinces, ça signifie seulement le fait de représenter un pouvoir, ou gouverner signifierait représenter un pouvoir avec une vision claire des attentes de la population en agissant sur base des actes clairs, ou gouverner signifierait le fait d'avoir de trouver des tactiques de maintenir les intérêts d'une famille politique au pouvoir et en plaçant partout ses pions. Moi, je vois plus que le troisième élément qui est plus en vogue chez nous. Qui ont été élus gouverneurs dans toutes ces provinces-là? Ce sont les pions de la majorité. Est-ce que ces gouverneurs-là, ils ont d'abord une vision des attentes de la population? Je dirais non. Et est-ce que toutes ces provinces ont des infrastructures adéquates pour bien fonctionner? Je venais d'être au pays, j'ai rencontré certains honorables, on parle avec certains amis qui sont là-bas. Dans certaines provinces, il n'y a rien, il n'y a même pas de bureau pour telle instance, il n'y a même pas de logement pour telle personnalité, donc il n'y a encore rien. Alors je me rends compte qu'il y a des autorités qui se contentent seulement pour le simple fait qu'elle est là. On l'appelle gouverneur, on l'appelle président de l'Assemblée, on l'appelle vice-gouverneur, mais est-ce qu'il est en train de répondre aux attentes de cette population qu'il appelle vice-gouverneur? Je dirais que c'est un peu mitigé. Puis, si nous devons maintenant revenir sur la manière de gérer le pays, si nous devons voir le gouvernement central, comment il est administré, avec autant de dysfonctionnements. Si déjà au niveau central, il y a autant de dysfonctionnements, il y a autant de problèmes qui se posent, comment on peut maintenant s'imaginer que ça puisse marcher dans des provinces?
Mm-hmm.
Les nouvelles provinces sont là, mais moi je trouve que c'est pas parce que dans telle province, ça ne bouge pas encore que tout marche là-bas. Parce que si on peut commencer à compter, on aurait à peine pour que un nouveau gouvernement mis en place puisse nous dire, voilà les bilans que nous avons déjà présentés, nous avons pendant pour une année, nous avons travaillé telle route, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Donc, je crois qu'on ne doit pas blaguer avec le pouvoir comme ça. Si on n'est plus en mesure de gouverner, on doit peut-être dire qu'on repense un peu la manière de faire.
La manière de faire.
Mais ce que ça se passe maintenant, c'est
oui.
de la cacophonie.
Mais vous avez quand même expliqué le contexte dans lequel le découpage a été opéré. Vous estimez que le départ a été, la base a été déjà biaisée. Et c'est ce qui conduit jusqu'en ce moment en pensant à ce qui se passe, par exemple, au niveau central. Mais pour vous, la dernière phrase, vous estimez qu'on peut s'arrêter à un certain moment, examiner et repenser la manière de pouvoir travailler pour permettre à ces nouvelles provinces de bien fonctionner. On va écouter Maître Serge et puis revenir avec l'invité. Maître Serge, vous êtes à Kamina, bonjour.
Bonjour Monsieur Piro, bonjour aussi à l'invité, à tous les milliers d'auditeurs de la radio Kamina.
On vous écoute Maître.
Oui, en tout cas, moi d'abord je me posais mille et une questions, je me disais est-ce que dans le partage était égaux ou bien le partage était vraiment inégaux. On ne parvient pas à comprendre. Ici, chez nous, je vous dis que depuis 2011, nous n'avons aucune avenue à se passer ici à l'Afrique. Comme autrefois, on avait parlé parce que vous avez dit hier. Hein. Vous quittez, par exemple, le centre-ville. C'est seulement là, au centre, là où on avait un PSD. Même les dimensions, là, les dimensions ne sont pas respectées. Vous venez à Lubumbashi, il y a des passements là, les distances, les dimensions sont respectées. Mais ici, chez nous, ce n'est même pas respecté. Les stades de Kamina, c'était construit avant que tous les stades soient vraiment lancés. Maintenant que tous les stades ont déjà pris l'envol, ici chez nous, nous demeurons toujours dans les mêmes soins, la pelouse synthétique qu'on avait déposée. J'ai entendu autrefois qu'on a commencé à voler ça. Il y a la trajectoire ici, c'est ce qui était la numéro 1, la trajectoire numéro 1, la nationale, des lois Bo en passant par un Kinda Soket, mais qui est abandonné à son type de sport. C'est presque 250 km. Je vais faire à côté d'un Chinois. Votre route ici, c'est la plus simple de toutes les routes que nous sommes en train d'asphalter. Ici, ça ne demande même pas. Je ne sais pas. Dans l'eau, moi-même, j'en étais victime. Je suis tombé dans l'eau pour traverser ce mal la rivière, la rivière à Kamina.
Ça veut dire que pour vous, Maître Serge, vous vous rendez compte que depuis les découpages, la situation que vous vivez, vous, il n'y a pas des actions concrètes. Hein. Il n'y a pas d'acte concret posé aujourd'hui par le gouvernement provincial.
Affirmatif, en tout cas, je vous dis, c'est très déplorable. Nous vivons. Quand il nous plaît seulement, je vous dis, les routes sont transformées. Peut-être qu'il nous fallait nous donner des pirogues et commencer à traverser.
Et la même situation d'ailleurs qu'on vit aussi deux fois à Kinshasa quand il pleut. Hein, on est sorti, on ne sait plus rentrer chez soi. Ça arrive même qu'il y ait des quartiers où les gens ont besoin des pirogues des fois pour circuler. Les autres ont besoin d'être transportés à dos par la population pour circuler. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup, Maître Serge de Kamina. Comment fonctionnent les nouvelles provinces? Comment arriver aujourd'hui à concrétiser toutes les actions du développement? C'est au centre des paroles aux auditeurs. On va revenir au ministre Hippolyte Mutombo tout de suite. Félicien, vous gardez la ligne 081-890-49-69 et 081-890-63-80 pour intervenir en direct.
Bayi Congo Kinshasa basi pe babali mwango mabokomisi nkombo mpo ya maponomi mokomi na suka bokende na lombango kokomisa nkombo oba centre iye izwami zinga zinga ya bisika bovandi
moto azangi mikanda misomi ye basengi asengeli kosala nini mpona kokomisa nkombo na seni
moto azangi mikanda misomi ye basengi asengeli kokende au centre elongo na banzene neke basato baye basila kokomisa nkombo au centre ena bango nde bakotatola solo ozali mwana Congo
ngai na sili kozwa ya ngai mokanda ya maponomi na kokende kopona ebongo yo.
Monsieur Hippolyte Mutombo-Mboimboa, vous avez suivi les compatriotes qui sont exprimés. Hein, beaucoup de points de vue quand même, beaucoup d'analyses et beaucoup d'éléments. Globalement, comment vous pouvez réagir à tout ce qui a été dit tout à l'heure par les compatriotes?
Je voudrais d'abord commencer par parler au sujet du contrôle parlementaire. Et il y a des textes qui disent qu'ils régissent le contrôle parlementaire. Mmh. Il est évident que l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée provinciale, et ce budget est défendu à l'Assemblée provinciale par l'exécutif provincial. Il a adopté, et quand il a adopté, ça devient une boussole. Ça guide le contrôle parlementaire. Les contrôles parlementaires ont des termes de référence. Si c'est respecté, ça ne peut pas amener au dérèglement, notamment au règlement des comptes ou à un excès de zèle. Et il faudra que les textes soient appliqués, puis qu'il y ait aussi une responsabilité dans les chefs de députés provinciaux. Il faut dire que ce n'est pas partout où ces dérives sont signalées, mais il y a des provinces qui sont quand même alignées, où on voit qu'il y a des contrôles parlementaires sérieux et qu'il y a un budget. Ce budget est traqué, il est suivi pour son application. Ça, c'est en l'occurrence pour notre province où on a eu quand même une stabilité institutionnelle. Je voudrais aussi dire par rapport à la mobilisation locale qui a été évoquée, je crois que je l'ai dit dans mon introduction, qu'il y a dans le budget deux volets. Il y a l'aspect mobilisation locale de la province, mais il y a également la rétrocession qui doit venir du niveau national. Il y a effectivement des provinces qui, de par leur mobilisation locale, peuvent déjà bien aborder les questions de développement, de par les activités qui se mêlent dans la province, mais il y a aussi celles qui n'ont pas vraiment grand-chose, qui, bien sûr, doivent être aidées sur le plan de finances avec la loi de péréquation. Il y a la péréquation qui n'est pas encore appliquée, et ça fait que nous avons pratiquement le développement du pays à plusieurs vitesses, chaque province en fonction de ses ressources locales. J'aimerais peut-être très rapidement montrer ici que l'essentiel des recettes, ce sont les recettes à caractère national. C'est ainsi qu'il faut que le niveau national aide les provinces pour leur décollage. Vous avez les recettes administratives, judiciaires et domaniales et de participation, les recettes de douanes et accises. Vous avez également les recettes provenant des impôts recouvrés sur les grandes entreprises et même les pétroliers. Ça revient au niveau national. C'est le gros des dépenses, en fait le gros des recettes qui reviennent au niveau national. Alors qu'au niveau des provinces, vous avez, je voudrais peut-être les dire à l'intention des auditeurs qui nous écoutent, c'est constitué essentiellement de la taxe spéciale sur la circulation routière qu'on appelle vignette, de la taxe annuelle sur la délivrance, la patente, et les diverses taxes de consommation sur la bière, l'alcool, le tabac, également les droits superficiels pour les provinces qui ont des sociétés minières, et les taxes sur les matières précieuses, en l'occurrence celles qui sont exploitées par artisanat. Et puis, évidemment, il y a des taxes spécifiques qui sont liées à certaines matières qui ne sont pas imposées par le gouvernement central. Ce qui fait qu'il y a certaines provinces qui sont notamment minières et des provinces qui sont au poste d'entrée du pays, qui ont la possibilité de réaliser une bonne mobilisation des recettes locales et de participer aussi énormément au budget national. C'est ainsi qu'il faut absolument que le gouvernement central, qui a les gros de libellés, les gros des items en fait de taxes et impôts, revienne au gouvernement central. Il faudra qu'il puisse rétrocéder pour rétablir les équilibres et permettre un décollage à la base. Donc il est vrai que les provinces doivent faire un effort de mobilisation locale, mais il est plus vrai que s'il n'y a pas le respect des principes de rétrocession en termes de 40% qui doivent revenir aux provinces, eh ben c'est un blocage difficile au niveau de la base, parce que le gros des recettes, c'est capté par les régies qui doivent au gouvernement central. Par rapport à la mise en œuvre, il est vrai que ça a été fait, ça n'a pas suivi le schéma comme c'était prévu, mais ensuite que ça devrait commencer 36 mois après le référendum constitutionnel, les infrastructures n'ont pas suivi, c'est vrai, mais tout ça peut se résoudre si réellement l'argent de l'État est bien canalisé vers les caisses de l'État et que chacun joue son rôle. Le gouvernement central rétrocède ce qui doit rétrocéder aux provinces. Au niveau des provinces, il y a des efforts pour la mobilisation et pour l'utilisation à bon escient des ressources, et que, évidemment, cette utilisation doit être accompagnée par l'Assemblée provinciale qui doit faire des contrôles dans le respect des normes et des termes de référence. Merci. Liés au contrôle parlementaire. Voilà. Donc, en définitive, j'aimerais dire ici qu'il y a aussi cette question de l'Assemblée provinciale qui revient. c'est vrai qu'il faut des bons, des hommes qui savent ce qu'ils font. Il faut évidemment, c'est une culture, c'est un processus. Il faut un renforcement des capacités dans les chefs des membres de l'Assemblée provinciale, dans l'exécutif, dans les exécutifs provinciaux, au niveau des ministres, au niveau des différents gouverneurs. Et puis évidemment, il faut une collaboration bien comprise. Ce sont les affaires de l'État qui doivent être comprises comme des questions de l'État, où on doit être responsable et éviter de les gérer sur base des sentiments ou des intérêts personnels.
Voilà.
Voilà en fait ce que je pouvais dire globalement par rapport aux différentes interventions qui sont passées tout à l'heure.
Ok. Félicien, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Oui, il est vrai que le problème de découpage des provinces est prévu dans la Constitution, mais tout le monde sait que son application n'a pas été planifiée. Et le démembrement précipité de toutes les provinces au même moment, au lieu de le faire comme à l'époque de la Deuxième République en allant mollo-mollo, ici, ça obéissait à ce que ceux qui voulaient retarder les élections avaient prévu comme stratagème. Et ça faisait partie de ces stratagèmes, seulement pour que on soit embrouillé, on soit dans une cacophonie, que les élections n'arrivent pas. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Les élections ne sont pas organisées et les provinces ne marchent pas. Et c'est ça qu'on a cherché. Bon, moi, je pense que quand cela ne tient plutôt, je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvions attendre de ces provinces dans un système de gestion que nous vivons aujourd'hui, gangréné par la corruption et toutes sortes d'antivalères à tous les niveaux. Qu'est-ce que les provinces pouvaient faire la différence si déjà au niveau national, il n'y a rien qui marche et chacun va aux affaires pour lui-même, pour son ventre. Et vous voyez comment est-ce que la classe politique est médiocre et très pourrie. Et donc, on ne voit pas l'intérêt de la nation. Et puis, les gouverneurs des provinces ou les députés provinciaux, ils vont faire le contraire. Moi, je comprends pas. Donc, moi, je pense que nous avons un problème sérieux. C'est un problème de l'amour de la patrie, un problème d'aimer son peuple, un problème de travailler pour l'intérêt général qui n'est pas encore entré dans le cœur de chacun ou dans le sang de chacun qui doit travailler pour élever son pays. Là, nous sommes encore très loin et il y a un problème d'hommes comme nous l'avons toujours dit. Nous devons beaucoup plus faire des émissions dans ce sens-là pour éveiller un peu le patriotisme dans les chefs de certains responsables.
Merci beaucoup Félicien. Vous estimez que l'éveil patriotique est très important pour avoir des hommes qui soient capables, dès qu'ils accèdent à ces différents niveaux de responsabilité, hein, travail pour l'intérêt. Et comme ça, même ces sentiments animent les provinces, on peut arriver quand même. Comme le disait notre invité, il y a quand même un certain de provinces qui connaissent une stabilité, hein, que ce soit en termes des relations entre les institutions provinciales, même des actions qui sont posées, quitte à voir ces témoignages. Adrien, vous êtes à Kananga, au Kasaï central. On sait que le Kasaï central a connu des grands moments douloureux et des moments de déchirement. Est-ce que cela a eu quel a été le rôle aujourd'hui qu'ont joué les institutions provinciales de cette nouvelle province autour de toute la situation que la province a connue et connaît jusqu'en ce moment, Maître Adrien? Maître Adrien, vous êtes avec nous? Dommage qu'on a perdu Adrien, on voit bien le recontacter. Galvani Placide, qui est en Boujimaï, estime que la problématique de la gestion administrative des provinces se pose avec acuité. C'est la question de la gouvernance, l'incompétence de certains animateurs en passant par la décentralisation du pouvoir. Il y a une question de suspicion aujourd'hui entre les animateurs des différentes institutions et c'est là aujourd'hui en tâche même la collaboration entre l'organe délibérant, par exemple comme ici au Kasaï oriental, mais la collaboration est relative est relativement bonne, quoi qu'il ait tenté de clientélisme et de copinage de certains députés provinciaux envers l'exécutif, comme preuve, 18 députés ont quitté les partis dans lesquels ils ont été élus pour rejoindre les partis de l'actuel gouverneur. Alors ça, c'est un témoignage du Kassai oriental. Alpha, vous êtes à Bandundouville. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour, Alpha.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, je suis ravi du sujet très important et très capital pour la population. Et ici, d'abord, moi, j'aimerais vous rappeler à tous ceux qui suivent la radio Capi, que vous allez vous rappeler qu'un ancien premier ministre avait même déploré que le découpage de la décentralisation a été précipité. Et aujourd'hui, peut-être, on pourra déjà donner raison à ces messieurs qui avaient demandé aux autorités de sursoir la décentralisation. Et ici, à Bandundu, précisément avec le gouverneur Godel Kinyoka, c'est quelqu'un qui a des grandes ambitions et qui était vraiment accepté à 100% par les députés. Mais la grande difficulté, ça commence d'abord par Kinshasa, sûrement, si il faut bien voir. Et quand vous regardez l'enveloppe même envoyée, parce qu'il y a une fois, il en a dit, d'une façon ou d'une autre, la rétrocession de 123 millions qu'on envoie à une grande province comme celle du Kwilu plutôt, je ne sais pas quelle action que le gouvernement peut poser avec 123 millions de francs congolais. Au moins un gouvernement qui a presque 423 agents, c'est avec même rétrocession qu'on doit payer les agents. Et les actions, il est vrai qu'ils se débrouillent de temps en temps, surtout en ce qui concerne les infrastructures routières, et il essaie de lancer les activités par ici, par là, mais il est vrai que les problèmes de fonds posent toujours un problème réel. Même les partenaires, vous savez, avec toute la difficulté ou les guerres ou la réputation de la RDC actuellement, freinent même les partenaires à venir financer, même s'ils ont la volonté de venir, mais qui pourra venir financer au moment où il y a des troubles un peu partout.
Alors, la question que vous posez, Alpha, autour de la rétrocession, la modicité des sommes qui sont rétrocédées aux provinces, relance encore le débat. Comme notre invité l'a évoqué tout à l'heure, la question de la caisse des péréquations qu'on devrait installer pour permettre à ce que les provinces qui n'ont pas peut-être assez de recettes puissent être relevées. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage, Alpha. Vous estimez que la modicité de moyens mis à la disposition du gouverneur dans le Kwilu, ça sera difficile de réaliser des grands projets, des grandes ambitions que les gouverneurs possèdent au-delà de tout. Il y a aussi la question de la stabilité. Je crois, Maître Adrien, vous êtes revenu. J'évoquais tout à l'heure le travail des institutions provinciales dans le Kasaï central, la province qui a connu ces grands déchirements. Alors, comment vous évaluez l'ensemble de fonctionnement administratif dans la province, Maître Adrien?
Oui, merci, Pierrot et la Mengi. Je salue aussi M. Hippolyte et tous les auditeurs. Je pense que c'est vrai, vous l'avez dit, que la province, donc la situation qu'a connue notre province, c'est un véritable frein par rapport à un élan que la province avait déjà pris à un certain moment, donc on nous a un peu bloqué en cours de route. Par rapport au fonctionnement des institutions, il faut dire que c'est vraiment d'une manière difficile. Tous les territoires donc qui constituent la province du Kasaï central, l'administration est aux arrêts. Il faut les reconnaître parce que même lorsque le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur étaient ici, il a même menacé les administrés d'aller les administrateurs de retourner dans leur province, donc dans leur lieu de service, mais ce qui est vraiment difficile avec cette insécurité. Mais au-delà de cette situation sécuritaire qu'a connue notre province à partir du mois d'août de l'année passée, il y a aussi lieu de dire que la décentralisation sur toutes ces facettes a échoué, à mon humble avis. Pourquoi? Parce que c'est une question qui n'était pas très bien préparée. C'est une question que tout le monde a pris en précipitation. On n'a pas préparé et la population et les institutions aussi n'étaient pas aussi prêtes pour voir comment est-ce qu'il faut aborder cette question-là.
La conséquence est qu'au jour d'aujourd'hui, même les petites réalisations, les petites rien du tout, lorsque nous voyons les artères de la ville de Kananga, ce sont, lorsque nous prenons la très célèbre route Ilebo, c'est une route qui est déjà donc en voie de disparition. Pourquoi pas même dire que c'est une route déjà disparue? Pourquoi? Parce que les véhicules, les vélos ne passent presque plus. Tous les véhicules sont obligés de prendre la direction de la route Révolution, qui est aussi dans une situation très piteuse. Lorsque nous prenons l'avenue du commerce, lorsque vous allez vers la lumière des nations, il y a une érosion qui est en train de menacer très dangereusement donc la voie ferrée. Donc il n'y a plus encore le passage sur cette avenue-là du produit. Donc ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, moi je donne raison, donc je prends les arguments de l'honorable Paulin Odiane pour dire que il y a vraiment un laisser-aller à ce qui concerne les contrôles du gouvernement, parce que l'Assemblée provinciale, à mon avis, est inexistante, elle ne fait presque rien pour mettre de la pression et pour contrôler efficacement le gouvernement provincial. C'est comme ça que le gouvernement se voit que tout lui est permis, il peut faire n'importe quoi, personne ne fait l'évaluation et c'est la population qui est préjudiciée.
Merci beaucoup, maître Adrien. Dommage, hein? On espère que l'administration va retourner au Kasaï central pour que la population vive en paix. Vous l'avez dit, plus d'une année de troubles, c'est un véritable frein à l'élan qui pouvait être pris pour le développement de l'ensemble des provinces du Kasaï. Rappelons quand même que cette situation a touché l'espace Grand Kasaï, comme on peut appeler ainsi. Et vous estimez qu'il serait mieux que tout cela soit rétabli un peu plus rapidement. Nous retournons ici à Kinshasa. Bienvenue, merci d'être en contact avec Parole aux auditeurs. Vous avez suivi les uns et les autres. On sait aussi, on n'en parle pas souvent, le fonctionnement des institutions provinciales à Kinshasa. Quand on fait les débats, les gens ont plus tendance à s'intéresser au gouvernement central, alors qu'il y a aussi l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Avez-vous l'impression que la ville-province de Kinshasa, le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, qui a quand même des actions, un travail qui est fait, qui intéresse même la population dans cet espace bienvenu?
Allô?
Oui, alors, bienvenue. Vous êtes sur les antennes, oui.
Oui, merci bien, monsieur le journaliste. J'ai suivi l'émission avec beaucoup d'attente. Allô?
Oui, bienvenue. On a des petits soucis des lignes. Le temps que vous puissiez vous déplacer, nous donnons la parole à notre invité. Rapidement, on revient à vous parce que là, votre ligne nous pose des petits soucis. Alors, monsieur Hippolyte Mutombo, vous avez suivi encore les auditeurs. C'est un processus, nous l'avons déjà dit. On est revenu sur les questions qui ont été évoquées. Mais Félicien a souligné un élément important, qui est l'éveil patriotique qui doit animer non seulement les animateurs des institutions nationales, mais aussi au niveau des provinces, qu'il faut le travail d'éveil patriotique pour les uns et les autres, que chacun comprenne le rôle qu'il doit jouer dans le développement des entités, que ce soit sur le plan national ou bien sur le plan provincial. Voilà, on va revenir aussi à l'invité que nous avons perdu tout à l'heure. Bienvenue, merci, c'est bon, on est avec vous. Alors, on vous écoute, bienvenue.
Ok, merci bien. J'ai suivi l'émission avec beaucoup d'attention. Le problème que nous avons, hormis la province, Bakoubo, les droits qu'il faut continuer à manier ma campagne, les provinces...
Dommage, bienvenue. La qualité de l'intervention se détériore. Nous avons Guélor Luchikou. Bienvenue, on a des petits soucis, hein. On va te rappeler peut-être sur une autre ligne. En attendant, sur la page Facebook, Guélor Luchikou pense que c'est grâce à la décentralisation aujourd'hui que les provinces, les populations sont rapprochées avec les gouvernés. Pour lui, il félicite l'ensemble des gouverneurs pour le travail qu'ils sont en train d'accomplir et les encourage à fournir encore beaucoup d'efforts. Tant mieux que mal, c'est un processus. Il estime qu'il faudrait éviter aujourd'hui la politique minimaliste qui tient compte tout simplement des personnes pour entraver le fonctionnement des institutions. Il faut avoir une vision globale. C'est pour cela que Guélor Luchikou félicite l'ensemble des gouverneurs et les encourage à pouvoir continuer. Ingénieur Bathier, merci d'être avec nous de Kisangani. Bonjour.
Bonjour Radio Kapi.
On vous écoute.
Je salue d'abord.
Oui, on vous écoute, ingénieur.
saluer l'invité qui est au plateau. Par rapport au sujet que c'est le journaliste, je pense que cette décision de la nouvelle découpage, ça a amené encore une souffrance à la population. Parce que on sait que c'était la loi constitutionnelle qui oblige qu'on puisse appliquer cette loi de découpage, mais on avait pris la décision vraiment prématurément, parce que ici, dans la province orientale où je vis, nous avons remarqué que cette découpage a encore amené la souffrance à la population. Si je peux vous dire juste, par exemple, si je peux prendre le cas de nos compatriotes qui font les petits commerces de Butembo et le Nord Kivu vers l'Équateur, maintenant ils sont bités à des problèmes de payer les taxes. Là, ils sont en train de payer les taxes pour le Nord Kivu, pour la province de l'Ituri et pour la province de la Tchopo, de la Bazolé pour arriver au niveau de l'Équateur à Mongala. Vous savez, ils ont encore augmenté la souffrance de la population. Et je peux vous dire que si on a pris la décision prématurément, parce que si je peux prendre l'exemple de la province du Bazolé, où depuis décembre 2015, on avait déclaré le gouvernement des commissaires sociaux, vous pouvez vous rendre compte que jusque-là, le gouvernement provincial n'est pas même à mesure de payer même les carburants pour ces personnes. C'est-à-dire que le gouvernement vit qu'avec des dettes. Donc le gouvernement doit aller prendre les dettes des paisibles citoyens, les carburants, les pièces de véhicules. Donc s'ils ne paient pas ces matériels, ils ne paient pas ces carburants, c'est vraiment difficile. Donc nous avons remarqué que le gouvernement avait pris cette décision dans la précipitation. C'était juste pour l'intérêt de ceux-là qui sont peut-être dans les postes. Nous espérons qu'ils doivent quand même penser plus à l'intérêt de la population. S'ils doivent prendre des décisions, que cette décision soit pour l'intérêt de la population. Ça ne doit pas être pour faire noyer la population.
Merci, merci beaucoup, ingénieur Vatier. Vous estimez que le découpage a plus posé des problèmes. C'est pourquoi nous aborderons cela dans la dimension consacrée au rôle que joue aujourd'hui le gouvernement central dans l'accompagnement de ces provinces. On en parlera dans la semaine prochaine. On revient à vous, monsieur Hippolyte Mutombo, pour conclure cet échange. On a suivi les uns et les autres. C'est une série d'émissions, comme nous l'avons dit. C'est un processus. Ingénieur Vatier, lui, estime qu'il y a beaucoup plus de problèmes aujourd'hui qu'on en a résolu avec les découpages. Qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive pour cet échange?
Non, ce qu'on peut retenir est que il faudra pas que l'on puisse confondre la stabilité des institutions avec ce qu'on a voulu appeler copinage. Ben, en fait, là où c'est stable, il faut que l'on sache ce qu'on cherche. Particulièrement, on parlait de changement des partis politiques. Vous savez que les députés ne peuvent pas librement changer de parti politique. Ils sont élus avec un mandat lié à un parti politique. Et donc, ils ne peuvent pas changer de parti politique suivant la volonté de l'exécutif. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut mettre hors d'état de question. Mais sinon, le bon indicateur, c'est le bilan. C'est le bilan pour toutes les provinces. On peut voir qu'il y a des provinces qui ont des bilans positifs. Il y a eu plus d'initiatives avant les découpages. Et après les découpages, on peut constater que globalement, on peut beau dire qu'il y a des points négatifs, mais globalement, on prend le nombre d'initiatives de développement sur l'ensemble du pays et surtout dans certaines provinces, on peut constater facilement qu'il y a plus d'initiatives aujourd'hui qu'il y a eu avant les découpages. Donc il y a certes des problèmes à résoudre, mais on a décollé, on est en train d'aller vers le mieux, et le mieux, la perfection n'est pas de ce monde, on doit toujours améliorer en termes de renforcement des capacités par rapport à l'exécutif, par rapport aux différentes assemblées provinciales. Mais sinon, le démembrement en soi, il faut dire que c'est des moyens qu'on doit mettre s'il faut réussir. On ne peut pas le faire parce que ça, c'est intervenu longtemps après les 36 mois qui étaient prévus. C'est intervenu, il fallait que ça intervienne à un moment donné, mais il faut qu'il y ait des moyens conséquents pour qu'il y ait un décollage. Et s'il faut qu'il y ait des moyens conséquents, les gros des taxes, l'essentiel des recettes fiscales reviennent au gouvernement. Il faut qu'il arrive à respecter le principe budgétaire qui veut que les 40% soient rétrocédés aux provinces pour leur donner leur politique, la politique d'investissement, et leur permettre de construire les infrastructures qu'il faut, de prendre les initiatives qu'il faut, exécuter les budgets. Les projets qui sont prévus au budget, qui sont bien sûr autorisés par les différentes autorités budgétaires, en fait, les assemblées provinciales de province.
Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Hippolyte Moutombo-Mbouéboin. Merci d'avoir accepté notre invitation et commenté ces sujets avec les auditeurs des Radio Capi. Je rappelle que vous êtes ministre près les gouverneurs des provinces du Kasaï oriental et porte-parole du gouvernement provincial. Merci à toute l'équipe des productions des paroles, aux auditeurs André Mongou qui était avec nous toute cette semaine, et à la mise en onde de Nico Kalambaya à la réalisation. Parole aux auditeurs, vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures, mais nous sommes sur www.radiocapi.net. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi et surtout, bonne fête de travail. Merci, au revoir.